ce suspense technique. Merci Marianne de nous accueillir de nouveau pour cette série qui va commencer par ce soir par Tchekhov et qui se terminera au mois de juin par Roland du Villard. Une série qui correspond à la fois à certains anniversaires et aussi au programme du Théâtre de l'Odéon, que je remercie beaucoup de nous accueillir à nouveau. Ce soir, nous sommes donc avec Roger Grenier, qui n'est pas besoin de présenter, dont l'œuvre est considérable, et pour se limiter à Tchekhov même, il est l'auteur d'un très très beau livre, qui était d'abord dans la collection L'un et l'autre, de notre ami regretté Pontalis, et maintenant dans Folio, qui s'appelle « Regard de la neige tombée, sauf erreur », qui est une phrase de La Mouette. La neige qui tombe, pardon. La neige qui tombe, qui est une phrase de La Mouette, et qui a fait aussi d'ailleurs adaptation au théâtre, et à la télévision je crois également, mais au théâtre de nouvelles de Tchekhov. Et dans Folio Classique, il a présenté plusieurs recueils de très belles nouvelles de Tchekhov, qui est probablement, ce n'est pas un secret de le dire, révéler un secret que de dire, son auteur favori. Et nous avons aussi avec nous Christian Giudicelli, qui est écrivain, critique de théâtre, et critique littéraire en général, et auteur de théâtre lui-même. Et puis, M. Giovannon du Marchat, qui est l'acteur, qui voudra bien lire, non pas toutes les scènes, mais quelques scènes de Platonov. Donc, nous allons commencer par vous demander, Roger, de nous situer cette pièce dans la vie et le temps.
Ça marche. Hier, je tombe, mais. Voilà. C'est celui-là. Bon, c'est un peu une coïncidence, mais le 17, c'est-à-dire en 3 jours, c'est l'anniversaire de la naissance de Tchekhov. Voilà. On peut y penser. Oui, alors, et ça, c'est une pièce qu'il a écrite dans sa jeunesse. Il n'avait pas 20 ans. C'est la première fois qu'il s'est lancé dans une pièce, une vraie pièce. Avant, il a écrit des scénettes. Et il était depuis peu arrivé à Moscou, à la fois étudiant en médecine et puis journaliste. Et alors, quand il. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait décrire ? Eh bien, il pouvait décrire le monde qui avait été le sien jusque-là, qui était le monde de cette petite ville dont il avait gardé un très mauvais souvenir, Taganrog, qui est au bord de la mer d'Azov, en Ukraine, et dont il dit partout le plus grand mal. Il dit par exemple qu'il n'y a pas une seule enseigne de commerçants sans une faute d'orthographe, et que dans toute la ville, et il n'y a que deux familles qui possèdent un pot de chambre. Alors, ça lui donne une vision de l'humanité assez noire. Bon, en plus, c'est un pays, toute la Russie, où on bat beaucoup les enfants, où Tchekhov et ses frères ont été beaucoup battus pendant leur enfance. Partout où il va, il demande est-ce qu'on bat les enfants ici ? Qu'est-ce qui bat les enfants ici ? Alors, tout ça va se refléter dans cette première pièce, qui est une pièce démesurée, maladroite, qui va être refusée, bien entendu, mais dans laquelle on peut voir la source de tout le théâtre important qu'il a pu faire par la suite. Bon, on le dira sans doute tout à l'heure. Et il va essayer de la faire jouer, elle va être refusée, bien entendu. Il a proposé je ne sais plus qui, elle a dormi jusque dans les années 20, sans même avoir de titre. Les Russes l'ont imprimé vers 1923, et elle a été jouée finalement pour la première fois que dans une traduction française de Paul Quentin par le Théâtre National Populaire, par Jean Vidard, qui a voulu exhumer cette pièce en 1956. Et c'est Vidard et son équipe qui ont trouvé le titre « Ce fou de Platonov ».
Oui, je fais une petite parenthèse parce qu'on a apporté là le costume de, dessiné par Pignon de, la première, de cette représentation de Jean Vidard. Et c'est Jean Vidard dans le rôle de Platonov. Et d'ailleurs, je crois, Jean-Yves, que cette version est un peu, a été un peu raccourcie pour la scène, n'est-ce pas ? C'était la première version.
Oui, c'est une pièce interminable. Il y en a qui disent qu'elle dure 4h30, d'autres 8h. Enfin, voilà. Donc chacun ensuite l'a adaptée. J'ai appris, pas plus tard qu'aujourd'hui, que c'est en train de se jouer à New York, dans une version alors absolument moderne, même futuriste, en mélangeant des vraies scènes et puis des vidéos. Enfin, ça m'a l'air assez extravagant. Et sous le titre de Platonov le déshérité. Oui, alors, donc c'est en 1956 que la pièce est jouée par Vidard. Il y a une distribution absolument ahurissante, parce qu'il y a toute la troupe de Vidard, quoi. Alors, il y a Soriano, c'est Maria Cazares qui fait Anna, une jolie veuve, et il y a Christian Minazzoli, il y a Jean Topard, Chose par un usurier, ça c'est un peu bizarre comme distribution. Enfin, Noiret qui fait un bougique complètement inculte et brutal. Enfin,
oui, c'est lui qui doit tuer Platonov.
Qui blesse Platonov alors qu'il avait la charge de le tuer. Bon.
Justement, là, dans cette pièce, vous avez remarqué qu'il y a déjà Tchekhov totalement en germe, en fait.
Complètement. Alors, on peut... Je ne sais pas si on ne se fait un petit moment à une lecture.
Oui, bientôt, mais...
Comme vous voulez.
On peut peut-être présenter l'argument de la pièce ou l'absence d'argument, si vous le souhaitez, pour donner au public la physionomie générale de l'œuvre. De quoi s'agit-il ?
Bien, comme dans, c'est en ça que Tchekhov a été moderne et innovateur, comme dans toutes ces pièces, il n'y a pas vraiment de sujet apparent. Ce sont des personnages mal dans leur peau qui sont des fois intelligents, mais qui disent des bêtises, ou qui sont idiots, mais qui échappent une parole intelligente. Et le vrai sujet, c'est le temps qui passe, le temps qui est vide, et le fait que tous les espoirs qu'ils peuvent avoir à un moment ou autre vont être trahis, ça va jamais marcher. Et c'est très désespérant, c'est complètement à l'image de la vie. En même temps, ce sont des personnages qui sont très rêveurs, enfin, qui pensent à autre chose. On a l'impression que quand ils jouent, ils pensent à autre chose. Et c'est ce que voulait Tchekhov. Moi, Tchekhov disait, Sophocle dit, je peins les personnages tels qu'ils devraient être et Euripide les peint tels qu'ils sont. C'était pareil avec Corneille et Racine, d'ailleurs. Et lui, il dit, moi, je veux peindre les personnages tels qu'ils rêvent.
Mais alors, ce qui est curieux, c'est que, par exemple, le personnage de Platonov, qui est plus intelligent que les autres, n'est-ce pas ? Mais il y a une autoflagellation perpétuelle aussi.
Oui, alors, Platonov, le personnage qui donne son nom, qui est le héros de l'histoire, c'est l'instituteur du village. Ça se passe dans un village. Hein. C'est l'instituteur et il est plus intelligent que les autres. Mais il boit autant que les autres. On boit énormément. Tous les personnages boivent énormément, mais c'est terrifiant. Même les femmes. Hein. Anna, la belle veuve, là, elle est complètement alcoolique.
Elle boit et elle fume aussi pour l'époque, et les plus rares. D'ailleurs, je des cigarettes.
Alors elle dit si on boit, on meurt. Mais si on ne boit pas, on meurt aussi, alors.
Mais dans le fond, maintenant, on peut donc passer, je me semble, à la première lecture qui va nous présenter cette atmosphère de la pièce et le personnage de Platonov.
Je vais peut-être juste dire quelques mots sur ce premier extrait pour le situer.
S'il vous plaît.
Donc c'est une scène entre Platonov et un certain Nicolas Triletsky. Et la scène intervient juste après une courte scène entre Platonov et une jeune femme qui s'appelle Maria Grekova, qui est une voisine, une jeune propriétaire des environs, qui est amoureuse de Platonov. Et Platonov le sait et joue très, très violemment avec elle, en fait. Et il l'humilie sous les yeux donc, du médecin... qui est un ami des gens qui habitent le domaine, qui est Triletsky. Donc Grekova sort en pleurant, Triletsky fait des reproches assez violents à Platonov, qui tente de justifier. Attendez, vous ne comprenez rien du tout. Vous n'avez aucune idée de l'enfer dans lequel je vis. Un enfer de vulgarité et de déception. Ne haïssez-vous jamais ceux chez qui vous discernez une lueur de votre propre passé, ne les haïssez-vous pas de vous rappeler ces jours enfuis où vous étiez jeune et pur et plein de rêves idéalistes. Tout est tellement simple lorsqu'on est jeune. Un corps vif, un esprit clair, une honnêteté inaltérable, le courage et l'amour de la liberté, de la vérité et de la grandeur. Mais voilà que surgit la vie quotidienne. Elle vous enveloppe toujours plus étroitement de sa misère. Les années passent, et que voyez-vous alors? Des millions de gens dont la tête est vidée par l'intérieur. Eh bien, cependant, que nous ayons su vivre ou non, il y a quand même une petite compensation. L'expérience commune. La mort. Alors, on se retrouve à son point de départ. Pur. À peine au monde, nous pleurons, car nous sommes entrés sur cette grande scène de folie. C'est terrible, ne trouvez-vous pas? Allons, venez prendre un verre. Je suis votre médecin, c'est mon ordonnance pour le cas présent. Qu'arrive-t-il à Anna Petrovna ce soir? Vous n'avez pas remarqué? Elle rit, elle embrasse tout le monde, comme si elle était amoureuse. Qui pourrait-elle aimer ici? Elle, sans doute. Ne croyez pas trop à son rire. Il ne faut pas faire confiance au rire d'une femme qui ne sait pas pleurer. Croyez-moi sur parole. D'ailleurs, notre veuve ne désire pas tant pleurer que se brûler la cervelle. Cela se voit dans ses yeux. Erreur ! Les femmes n'aiment pas les armes à feu. Le poison reste leur arme favorite. Mais ne parlons plus de cela. Vous ne venez donc pas avec moi ? Non. Alors je vais boire seul. Ou avec le pope.
Nous sommes donc dans une propriété à la campagne, au fin fond de nulle part, au milieu de la Russie, loin de non seulement Moscou, de Pétersbourg, mais de toutes les grandes villes, dans une propriété, dimanche après-midi sans doute, où se rassemblent quelques amis chez une jeune veuve, Anna, qui est veuve d'un général, et qui est prête à trouver là... n'importe quel amant, mais particulièrement Platonov. Il faut dire que les femmes qui sont également là, et que nous verrons, dont trois ont un nom qui commence par S, Sonia, Sofia et Sacha, plus une troisième, une quatrième, qu'on a nommée tout à l'heure, ces quatre femmes seront tour à tour ou en même temps amoureuses de Platonov, lui-même marié à Sacha. Et voilà donc en gros la situation. Et il faut admirer, je trouve, le fait que ce garçon de 18-20 ans, qui s'appelle Anton Tchekhov, conçoit une pièce, en effet, sans sujet, sans drame, sans plan, sans structure, avec en principe un personnage dominant, mais encore, est-ce que Platonov domine parce qu'on a appelé la pièce Platonov? Est-ce que sinon... Si ça avait été comme un titre de certains titres de Gorky, Les pauvres gens ou autre, on n'aurait pas eu simplement l'impression d'une communauté. Et alors en même temps, je crois qu'il est l'aboutissement de la grande tradition russe du 19e siècle, depuis Eugène Onegin, qui est rempli de ces personnages un peu byroniens, qui qui désespère de tout, qui sont mis à mourir, pour qui la vie n'a pas de sens, pour qui le temps ne passe pas, pour qui l'amour ne mène à rien, et pour qui le mariage mène toujours, lui, à l'adultère, ce qui n'existe évidemment qu'en Russie. Donc, nous avons ces thèmes déjà chez Pouchkine, et nous les retrouvons bien sûr chez Dostoïevski, qui apporte en plus à Tchekhov sans doute le personnage du bouffon, car c'est aussi un des traits de Platonov, d'être un bouffon, de ces bouffons qui n'existent vraiment, il me semble, que dans la littérature russe, et que nous aimons particulièrement à cause de cela.
Je dirais aussi que c'est un mélange de Don Juan et de Hamlet.
Hein, oui, ce qui peut paraître d'ailleurs assez curieux, c'est la séduction de Platonov. Moi, je n'ai pas vu la représentation actuelle, mais ce qui me paraît étrange, c'est que cet homme qui est toujours entre deux vins, qui est, on décrit comme un peu sale, etc., exerce un tel pouvoir sur les femmes qui sont autour. Alors évidemment, il est plus intelligent que les autres, il est plus lucide, mais il n'empêche que, je ne sais pas comment c'est traduit, donc on peut faire cette présentation, mais là, elles sont quand même...
Les femmes sont attirées par lui, mais lui, il ne peut pas avoir une femme sans avoir envie de la séduire, mais en même temps, il s'intéresse vraiment... Le fond de sa vérité à lui, c'est qu'il s'adresse qu'à lui-même, dans le fond, à son propre tourment intérieur, et que les femmes l'amusent, mais c'est secondaire. Genre, elles ne comprennent pas, bien entendu.
Mais on dit de Tchekhov, justement, est-ce qu'il y aurait un rapport, qu'il n'avait pas d'amis, et qu'en fait, il y a une espèce, alors que c'est un théâtre où il y a vraiment une humanité extraordinaire, mais il y a une espèce de sécheresse dans les rapports humains, qui fait que les gens sont quand même assez incapables d'aimer, en tout cas les personnages principaux.
Oui, on dit qu'il était bienfaisant sans éprouver d'amitié, qu'il était plutôt indifférent, que les femmes, il avait toujours ce jeu-là, comme surtout avec la fameuse Lika Mizinova, où il l'attire et puis il prend la fuite dès qu'elle s'approche trop près. Ça, il y a ce jeu de tout le temps. Quand Dieu sait si les universitaires et les érudits font des recherches fouillent partout, et dans toute la vie privée de Tchekhov, ils n'ont trouvé qu'une femme qui a vraiment été sa maîtresse, c'est une actrice dans un grand hôtel de Moscou, mais Yevorskaya, je crois qu'on s'appelle, si ma mémoire est bonne. Mais c'est tout ce qu'on a pu trouver. En général, son attitude, c'est plaire et puis ensuite prendre la fuite.
Oui, de toute façon, il est
comme ça.
Il est médecin. Et on ne peut pas être médecin si on n'est pas indifférent à la souffrance des autres. Peut-être pourrions-nous maintenant écouter une présentation d'autres personnages de la pièce.
Oui, parce que les autres personnages sont très divers.
J'avais l'intention d'énumérer quand même.
Ah oui, oui, vous en prie, faites-le.
Oui, alors autour de lui, il y a sa femme d'abord, Sacha Ivanovna. Il y a une veuve de général, Anna Petrovna. Dans la version de Villard, c'était Maria Cazares qui jouait ce rôle. Et le beau-fils de celle-ci, Sergueï, dont la femme Sofia va tomber amoureuse de Platonov. Et puis il y a un colonel en retraite, on pourrait dire un colonel gâteux plutôt. Et puis son fils Nicolas, qui est un médecin ivrogne, le médecin du village, qui est vraiment alcoolique, qui ne soigne pas du tout ou très mal ses patients. Il y a un vieux banquier et son fils, il y a un usurier, il y a des prêteurs sur gage, il y a un huissier, une jeune propriétaire. Alors on voit par le choix de ces personnages que l'argent quand même compte beaucoup dans cette histoire. D'abord parce que les gens en ont trop, comme les banquiers, ou bien parce qu'ils n'en ont plus du tout, comme la veuve, la Anna, qui va perdre sa propriété exactement comme dans la cerise.
Oui, c'est vrai.
Donc une deuxième scène qui est cette fois entre Sofia et Platonov. Puisque Platonov fait le reproche à Sofia de... Il a l'impression qu'elle le fuit. Et voilà. C'est Sofia qui commence. Ne parlez pas si fort. Je ne puis supporter les gens qui élèvent la voix. Dès que je suis arrivée ici, j'ai pris plaisir à vous écouter. Mais peu à peu, cet intérêt s'est transformé en un sentiment désagréable. Je vous en prie, comprenez-moi. Je n'ai rien contre vous. Mais nous nous sommes mis à nous voir chaque jour. Vous m'avez raconté que vous m'aimiez depuis longtemps et que ce sentiment était réciproque. L'étudiant aimait la jeune fille aimait l'étudiant. Cela est une histoire banale et sans signification. Mais là n'est pas la question. Quand vous me parlez du passé, vous le faites comme si vous me réclamiez quelque chose. Comme si, dans ce passé, vous aviez manqué ce que vous désirez maintenant. Le son de votre voix est tyrannique. Vous dépassez les règles de l'amitié. Vous êtes en colère. Vous criez. Vous saisissez ma main. Vous me poursuivez. Une constante surveillance. Aucune paix. Que voulez-vous ? Que suis-je pour vous ? C'est tout ? Eh bien, merci pour votre franchise. Voilà, vous êtes en colère. Et ne vous vexez pas, Mikhail Vassilievitch. Oui, je comprends. Vous ne me haïssez pas. Vous avez peur. Sofia Yegorovna, vous avez peur. Éloignez-vous, Platonov. Vous mentez, je n'ai pas peur. Où est votre force de caractère si chaque banale rencontre met en danger l'amour que vous avez pour votre mari ? Voyez-vous, je venais tous les jours ici parce que vous me sembliez ne pas avoir de préjugés. Mais quelle dépravation ! En tout cas, je dois être à blâmer. J'ai été tenté. Assez, vous n'avez pas le droit de dire cela. Allez-vous-en. Ainsi, on vous poursuit. On vous épie. On vous saisit les mains. Pauvre petite chose. Quelqu'un veut vous dérober à votre époux. Et Platonov, cet affreux Platonov, vous aime. Grotesque. Ce n'est pas ce que j'attendais d'une femme intelligente. Vous êtes un insolent, Platonov. Vous perdez le sens. Platonov sort. Oh, c'est terrible. Il faut que je le retrouve et me justifie. Je ne puis supporter cela.
Je vous inspire cette scène. Question ?
Oui, mais ce qui est justement intéressant, ce qu'on avait évoqué à partir de cette scène, c'est aussi le fait que tout Tchekhov est déjà dans Platonov. Je pense que vous vouliez insister sur ce point.
Ah oui, non, c'est très frappant. Il n'a pas 20 ans quand il écrit ce Platonov. Et il y a en germe absolument toutes les pièces qu'il va écrire, qui sont les pièces majeures.
Et même les nouvelles, d'ailleurs.
Les nouvelles. On a été chercher dans les nouvelles, il y a aussi les thèmes qui se retrouvent dans les nouvelles. Avant d'énumérer ça, je voudrais dire, il y a une chose que je recommande, c'est l'adaptation que Nikita Mikhaïkov a fait de Platonov, sous ce titre un peu bizarre, Partition inachevée pour piano mécanique. C'est un très, très beau film, très fidèle à l'esprit de Mikhaïkov. Et puis alors, il y a, c'est plus lointain et puis adapté à la France d'ailleurs, il y a aussi le film de Chéreau qui s'appelle
Hôtel de France.
Hôtel de France, évidemment. Hôtel de France, c'est Platonov, vu par Chéreau. Bon. Non, mais ce qui frappe le plus, comme disait Christian, là, c'est que il y a vraiment déjà toute l'œuvre de Tchekhov va se développer à partir de Platonov. Ouais, dans Ivanov, il y a une société qui se sent inutile, où on va des sentiments très, très exaltés aux sentiments de culpabilité. Et puis Ivanov est un séducteur, lui aussi. Hein. Bon, la mouette, ben, c'est une femme à la dérive, alors les femmes à la dérive ne manquent pas dans la pièce. Oncle Vania, il y a deux personnages qui ont perdu leurs illusions, c'est Vania et Astrop. Et Astrop se comporte un peu avec les femmes comme Platonov, c'est-à-dire que il néglige celle qu'il aime et il tente d'embrasser celle qui le repousse. Dans Les Trois Sœurs, il y a aussi des personnages qui étouffent. Bon. Tchekhov disait, les gens dignes ne font que dîner et pendant ce temps signifie leur bonheur ou se défait leur existence tout entière. Et alors c'est encore une fois un monde où il n'y a plus aucun espoir. C'est dans Les Trois Sœurs qu'il y a plein de cris à Moscou. Il y a tout un seul espoir, ça serait de partir. Et puis la cerisée, je l'évoquais tout à l'heure, là, c'est c'est la propriété perdue. Et là, dans Platonov, c'est Anna Petrovna qui perd sa propriété, qui va perdre son domaine parce qu'elle a trop de dettes. Et elle a une parole fataliste, Dieu nous l'a donné, Dieu nous le reprend. Alors, d'ailleurs, maintenant, ça, on va peut-être s'intéresser à cette belle veuve, Anna Petrovna, puisque il y a une scène entre Platonov et elle. Alors, elle se plaint, comme la plupart des héroïnes tchécoviennes, évidemment. Elle dit que sa vie est difficile, qu'elle veut vivre, qu'elle veut aimer, être aimée. Et lui répond avec une froideur terrifiante. Il dit « Je vous aime, je vous respecte. »
Nous vous écoutons.
Donc Anna Petrovna, entrant en costume de cheval, enfin de cavalière, j'imagine, et portant une cravache. Je pensais que vous n'étiez pas couché, mais Dieu a créé l'hiver pour dormir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tendez votre main. Vous êtes ivre? Le diable seul le sait. Mais vous-même, souffrez-vous d'insomnie? Venez prendre l'air, cher et estimé somnambule. Oui et non, mon très cher Mikhail Vassilievitch. Vous me regardez avec des yeux où l'ignorance le dispute à la crainte. Je n'ai pas peur. En tout cas, pas pour moi. Avez-vous choisi l'incohérence? Mettez cela sur le compte de la vieillesse qui commence. On peut pardonner ses caprices chez une femme qui vieillit, mais regardez-vous, vous êtes jeune. Chut! Vous êtes comme l'été en juin. Vous avez toute la vie devant vous, mais je ne veux pas avoir ma vie devant moi. Je la veux dès maintenant. Oui, cette nuit, je me sens diaboliquement jeune, impitoyablement jeune. Que voulez-vous de moi? Je ne veux rien, partez. Laissez-moi tranquille, je vous en implore. Cessez de me dévisager de cette façon. Pourquoi me traquez-vous comme vous le faites? Oui, je vous traque, oui. Et à cheval encore. Eh bien, il y a un moment pour l'alali. Pourquoi moi, parmi tous les hommes? Je ne suis pas capable de vous résister. Je suis la faiblesse elle-même. Comprenez-moi. Orgueil d'abord, puis humiliation de soi-même. Pourquoi vous défendez-vous, Platonov? À quoi bon, Michel? À quoi bon? Il faut bien que cela finisse. Comment finir quelque chose que je n'ai même pas commencé? Oh, vous et votre pesante philosophie! Vous passez votre temps à vous mentir à vous-même. Et par une nuit comme celle-ci. Michel, si vous devez mentir, choisissez l'automne. Quand les pluies sont venues et que tout est noir et bourbeux. Mais pas maintenant. Regardez, fou que vous êtes, regardez les étoiles. Voyez, elles vacillent devant vos mensonges. Elle l'embrasse. Il n'y a pas d'être au monde que je pourrais jamais aimer comme je t'aime. Il n'y a pas de femme au monde qui pourra jamais t'aimer comme moi. Prenons l'amour et laissons le reste. Si je pouvais seulement te rendre heureuse. Mon Dieu, comme tu es belle. Comme tu es belle. Mais je ne t'apporterai pas le bonheur. Je n'attire que la misère. Je te rendrai affreusement malheureuse. Comme j'ai rendu malheureuse toutes les femmes qui se sont jetées à ma tête. Vous vous prenez trop au sérieux. Croyez-vous être aussi terrible que vous vous l'imaginez, Don Juan? Comme vous êtes beau au clair de lune. Très séduisant. Je ne me connais que trop. Ce genre de choses ne se termine heureusement que dans les romances. Qu'avez-vous d'autre à me dire, monsieur le philosophe? Si j'étais honnête, je m'enfuirais. Maudite lâcheté. Fou que tu es, Micha. Prends, saisis, étreins. Comme tu es bête, Michel, comme tu es bête. Une femme vient à toi, elle t'aime, tu l'aimes, la nuit est belle, quoi de plus simple? Anna Petrovna, je vous aime. Je vous aime et je vous respecte. Ne recommencez pas. Par conséquent, je ne tolérerai pas que vous pataugiez dans une intrigue mesquine. Tu m'aimes et tu me respectes. Moi, je t'aime, je te l'ai dit, et tu le sais bien toi-même. Que faut-il de plus? Mais c'est la paix que je veux. La paix. Comprends-moi. Me reposer. Oublier. Et rien d'autre. Tu ne sais... Tu ne peux pas savoir combien ma vie est difficile et je veux vivre. Écoutez-moi. Pour la dernière fois, je parle en honnête homme. Pars. Je ne vous quitterai pas. Vous aurez beau crier, tempêter et philosopher jusqu'à en perdre le souffle, je ne partirai pas. Sur mon honneur, envoyez votre honneur au diable. Allez, venez maintenant, venez. Folle que vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites. Allons, venez, dépêchez-vous. Attendez, quelqu'un vient. Cachons-nous derrière cet arbre.
Anna, pauvre Anna, il le dit encore, pardon, il le dit encore ailleurs, et il détruit les femmes, l'enfant, et il est détruit de bien façon, c'est-à-dire il dit qu'il vaudrait mieux les tuer carrément comme les Espagnols le font, que les torturer lentement comme les Russes le font. On dit les Russes. Alors donc on a vu qu'il y avait 4 femmes dans qui sont amoureuses en même temps de Platonov dans la pièce. Alors il y a donc Sacha, son épouse légitime, elle l'aime depuis toujours, elle l'aimera toujours, et en dépit de tout, elle est très au courant des infidélités, elle tente de se tuer en s'empoisonnant. J'ai même l'impression qu'il y a une autre tentative de suicide dans une version qui a été coupée au début, et qu'elle est sauvée par Moujik. Je ne suis pas absolument sûr parce que ce n'est pas dans le texte dont nous disposons. Alors, il y a ensuite une jeune propriétaire des environs qui s'appelle Maria Agrikova et elle a fait des avances à Platonov, Platonov l'a fait, et puis ça a mal tourné. Alors, du coup, elle est poursuivie en justice. Mais on va voir vers la fin de la pièce qu'il y a une réconciliation qu'elle voudrait l'emmener chez elle, elle va l'embarquer. Et à renoncer à son procès. Et puis il y a Anna Petrovna, on en a assez parlé, vous l'avez vu agir grâce à notre amie. Et puis enfin Sofia Igorovna, qui a cru que Platonov allait partir avec elle, elle l'a même dit à son mari. Et puis, chez Sergei Voynitsev. Et quand elle voit qu'il s'est moqué d'elle, qu'il ne partira jamais, c'est elle qui le tue. C'est d'ailleurs la seule fois dans le tout théâtre de Chekhov que quelqu'un est tué sur scène.
Oui, évidemment, à la dernière scène et au dernier mot du texte.
Et il dit pourquoi. Et en fait, pourquoi se résume.
Oui.
Tout le théâtre de Chekhov, et même toute l'œuvre de Chekhov, hein. Ça veut dire on cherche en vain le sens de la vie, ça n'a aucun sens. Il disait à sa femme, Olga Knipper, tu me demandes quel sens a la vie, c'est comme si tu demandais quel sens a une carotte. Une carotte, c'est une carotte, et puis je crois que c'est tout.
Mais je crois, justement, par rapport au théâtre de Tchekhov à venir, là, s'il y a peut-être une faute qu'il a sentie, Tchekhov, c'est qu'effectivement, cette fin, ce Platonov qu'on tue, ça paraît, c'est un tout petit peu maladroit d'une certaine façon. Ça donne l'impression que ça fait une fin.
Oui, il n'a pas recommencé. Hein.
Oui, non, je crois qu'il a compris qu'il ne fallait pas faire un effet théâtral aussi gros à ce moment-là. Voilà. Mais je crois que vous m'aviez raconté une histoire, ça peut être une petite parenthèse, que je trouvais extrêmement drôle à propos d'un petit neveu de Tchekhov.
Oui, un neveu, pas.
Ah, un neveu, oui.
Un petit neveu, oui. Oui, je disais tout à l'heure que les personnages dans la pièce boivent beaucoup, et même Anna, notre jolie veuve, là, et c'est, quand elle dit, j'ai dit tout à l'heure, si on boit, on meurt, mais si on ne boit pas, on meurt aussi. C'est une phrase que Tchekhov a empruntée à son frère Alexandre. Son frère Alexandre, qui était un peu le mauvais garçon de la famille, qui buvait énormément et qui, qui passait son temps à séduire les femmes dans la détresse, et puis après il est maltraité, et que ce n'était pas possible. Et alors ce qui est très curieux, c'est ça que vous demandez, c'est que cet Alexandre, il a eu de nombreux enfants, mais après il en a un, alors ça, on a peine à le croire, on se pince pour le croire, Dimitri, qui a fait carrière à Hollywood, et qui a même eu un Oscar dans un film de Hitchcock, Notorious, et qui ensuite est devenu professeur d'art dramatique, et il a eu comme élève Gary Cooper, Paul Newman, Marilyn Monroe, Clint Eastwood et quelques autres. Enfin, j'ai pas. C'est le neveu de Tchekhov.
Mais je ne sais pas s'il boit, en tout cas son père buvait. Et là, pardon, et justement dans la scène que va nous lire Martin, on voit une scène un peu de, justement, où ils sont, les deux personnages, Anna et Platonov, ont un peu trop bu, et on va voir la jeune veuve qui se lamente parce qu'elle se veut une femme libre.
Buvez, mon âme. Ah, que le diable t'emporte, je n'aime pas les demi-mesures. Quand on boit, on meurt, dit-on. Mais si l'on ne boit pas, on meurt aussi. Alors il est sûrement plus agréable de boire et de mourir. Je vais te confier quelque chose, Platonov. Je bois depuis longtemps et personne ne le sait. C'est vrai. J'ai commencé du vivant du général. Et je continue. Est-ce que j'en ouvre une autre ? Non. Nous perdrions l'usage de la parole. Tu sais, il n'y a rien de pire au monde qu'une femme libre. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'a rien à faire. Quelle est mon utilité ? Pour qui ai-je vécu ? Et attends, j'ai autre chose à te dire. Je suis une femme immorale, Platonov. Et c'est probablement pour cela que je t'aime. Oui, il faut que je meure. Tous les gens comme moi doivent disparaître. Si seulement j'étais professeur, ou directeur, ou quelque chose d'autre, diplomate, intervenir dans les affaires du monde. C'est terrible d'être une femme libre. Les chevaux, le bétail, les chiens ont un rôle sur cette terre. Moi, je n'en ai pas. Je suis superflu. Qu'est-ce que vous dites ?
Il faut dire d'ailleurs que Platonov répond « Rien, nous n'avons rien à nous envier ». Ce personnage est évidemment très original, celui de cette femme libre, comme elle dit, émancipée, prête à tout. Et alors, il faut dire que chacune des femmes de la pièce est très bien caractérisée. Elles ne se ressemblent que par l'insatisfaction. Mais en réalité, chacune a une fonction différente et un caractère différent. La plus accomplie, la plus vigoureuse, celle qui survit à toutes les épreuves, un peu d'ailleurs comme dans la Cerisée, la mère de famille, c'est cette Anna que nous venons d'entendre, et qu'elle est Maria Cazares, incarnée évidemment superbement. Ce n'est pas du tout l'être affaibli que sont l'autre héroïne de Tchekhov, c'est une femme extraordinairement vigoureuse et même héroïque par certains côtés.
Oui, mais je crois qu'on arrive alors à cette scène quand même terrible entre Sacha, la femme de Platonov, et Platonov, où elle dit tout son amour, tout son chagrin, toute sa déception, mais avec toujours, comme dans Tchekhov, des silences, parce qu'il conseillait même aux acteurs de penser autre chose en disant leur réplique. Ils avaient l'air un petit peu absents, hein, en particulier à sa femme, à Knipper. Et là, cette scène qui est pathétique, qui devrait vous arracher des larmes, il la cache tout le temps par des touches de burlesque. Bon. Il dit à Sacha, oui, qu'il l'aime, qu'il la remettra, etc. Mais que. Et puis que d'ailleurs, il n'y a personne d'autre que lui qui est capable de, de, de supporter sa mauvaise cuisine, sa soupe trop salée. Voilà, c'est...
Mais justement, j'ai l'impression qu'au fond, il y a un équilibre toujours assez délicat à trouver entre le pathétique et le dérisoire dans les mises en scène. Souvent, me semble-t-il, dans la plupart des metteurs en scène accentuent souvent plus l'aspect pathétique que l'aspect dérisoire. Or, cet équilibre est quand même très, très délicat à trouver. Mais il y a aussi une chose qui est très étrange dans le théâtre de Tchekhov, sur laquelle j'aimerais bien vous interroger, c'est au fond la composition des pièces, car on a la sensation qu'elles coulent de source, un peu comme ça, et qu'il n'y a pas de structure. Et en fait, ce n'est pas du tout votre avis.
Non, en fait, c'est très solide, enfin, mais c'est invisible, parce que, justement, c'est le temps qui passe. Je pense quand même que... En plus, Tchekhov, il essaye tout le temps de, quand il avait gros chapitre pour les mises en scène, il essaye de casser justement la façon dont les acteurs, en particulier Stanislavski et toute sa troupe, comprenaient ses pièces. Stanislavski n'avait qu'une idée. Stanislavski, quand il faisait des lectures des pièces de Tchekhov, lui et ses comédiens, ils se mettaient tous à pleurer. Et il n'avait qu'une idée, c'est faire pleurer le public. Or, Tchekhov disait, mais c'est des comédies, il dit même que la cerise est une farce, ce qui est quand même un peu extraordinaire. Bon. Et donc, il veut, par exemple, dans le personnage de Trigorin dans Vania, il veut... C'est un écrivain, Trigorin, un personnage écrivain. Et alors, Stanislavski l'avait habillé très élégamment, et Tchekhov a dit non, ça ne va pas du tout, il faut qu'il ait un pantalon ridicule et puis des chaussures percées. Pourquoi ? Pour que la femme qui est amoureuse de lui soit amoureuse de l'idée d'écrivain et non pas du personnage Trigorin qui est un pauvre type finalement. Donc il y a tout le temps, les gens vivent dans leur rêve et ne voient pas tellement la réalité qui est en face d'eux sur la scène incarnée par d'autres personnages.
La réalité c'est quand même ce qu'ils sentent quand même profondément, je pense, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe alors qu'il ne se passe rien justement. Oui. Et donc c'est une espèce d'ennui fondamental qui est au centre des pièces.
Et je pense la même chose. Le temps qui est une invention du roman du 19e siècle devient la propriété du théâtre de Tchekhov.
Oui, alors évidemment, il y a pour un auteur de théâtre un grand risque à représenter le temps qui ne passe pas. Le risque, c'est que l'ennui qu'éprouvent constamment les personnages, dès la scène 1 de la pièce, le mot intervient au moins 4 fois dans la bouche d'Anna, qui s'ennuie à mourir. Il ne faut pas que cet ennui se communique aux spectateurs. Et là, les metteurs en scène ont des réponses différentes. La réponse de Villard, nous avons eu la chance de la connaître, il a coupé la moitié de la pièce, et le spectacle durait à peu près 2 heures, et donc il rendait la pièce plus dramatique qu'elle n'est lorsqu'elle dure 4 heures et quart, et si elle durait 8 heures, ce serait encore moins dramatique, évidemment. Et la pression d'ennui serait probablement encore plus grande. Donc le problème de Tchekhov, un problème esthétique tout à fait extraordinaire, c'est qu'il vide le théâtre de tout ce qu'il faisait, au contraire, sa technique et son habitude. Il y avait un sujet, il n'y a plus de sujet. Il y avait une organisation dramatique, il n'y a plus d'organisation dramatique. Il y avait un temps accéléré par rapport à celui d'avis, même dans la tragédie classique, où on le sent bien, il fallait faire tenir en 24 heures, beaucoup plus que 24 heures, et là il faut faire tenir en 2 ou 3 heures, peut-être beaucoup moins que 2 ou 3 heures. C'est un peu comme le café des caféinés, finalement, il a vidé l'art de tout ce qui le faisait être, c'est pour ça qu'il nous donne cette impression unique dès qu'on l'entend.
Mais on sait que Tolstoï détestait le théâtre de Tchekhov, pas seulement parce qu'il le trouvait immoral, mais enfin il détestait ça, Et il y a une anecdote qui est connue, c'est en Crimée, Tchekhov va rendre visite à Tolstoï, il le trouve, qui est encore au lit, et alors Tolstoï dit, mais penchez-vous pour m'embrasser, alors que se penche, et lui dit, vous savez à quel point je déteste Shakespeare, et bien vos pièces à vous, c'est encore pire que ça. Et alors Tolstoï demande à Tchekhov, mais où vos personnages vous mènent-ils finalement? Et Tchekhov répond, du canapé au cabinet de débarras et retour.
Il y a une phrase que vous aimez beaucoup citer, Roger, de Tchekhov, qui est celle-ci, la vie ne connaît pas de sujet, dans la vie tout est mélangé, le profond et l'insignifiant, le sublime et le ridicule. Et je crois que ça donnerait une définition quand même assez générale.
Oui, oui.
Mais justement, c'est presque contradictoire avec cet art qu'il essayait de définir comme n'étant pas réaliste, justement, de quelque chose de rêvé. Oui. C'est très loin d'un théâtre réaliste, en fait, Tchekhov. Et en même temps, ça renvoie à une réalité plus souterraine, plus intérieure, et dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, dans ces scènes qui nous paraissent quand même assez lointaines de la vie de province, comme aurait dit Balzac.
Oui, mais c'est un monde rêvé, comme on l'a dit et redit, mais en même temps, on est quand même dans la réalité, on croit au personnage, on croit à Platonov, on croit à sa femme, Sacha, on croit à la belle Anna, c'est évident. Il y a une chose, je ne sais pas si ça peut éclairer. Il y a un film de Wimal que je recommande, qui a filmé Oncle Vania. Et il appelait ça Vania 42e rue. Et c'est en fait une mise en scène d'Oncle Vania qui a eu lieu à Manhattan, avec des très bons acteurs, mais on voit d'abord ces acteurs qui marchent dans les rues de Manhattan, qui arrivent à la 42e rue, qui entrent dans un théâtre désaffecté, qui est en ruine, qui s'installent autour d'une table, et on n'arrive pas à comprendre à quel moment commence vraiment la pièce de Tchekhov contre Vania. Et c'est ça, on est donc dans une réalité très très matériel, hein, les gens qui circulent dans Manhattan, et puis tout à coup on est dans Vania et c'est pareil, on est dans ce monde onirique.
On peut se demander aussi, je ne sais pas comment les spectateurs le sentent aussi, oui, il m'arrive assez souvent de non pas de confondre les pièces, mais de penser qu'une scène est dans une pièce qui n'est pas celle que je crois. Je lui en ai la sensation, me sent-il avec le théâtre de Tchekhov plus qu'avec un autre, d'une grande pièce où il y aurait toutes les pièces, en fait.
Ben, c'est un peu ce qui arrive avec Platonov, puisqu'on voit le germe de la plupart des pièces, de Cerisée, de Vania, des Trois Sœurs, de la Mouette, dans les personnages, dans les scènes de cette œuvre d'extrême jeunesse. C'est étonnant même qu'il ait fait ça à cet âge-là.
Oui, il faut dire notamment que, évidemment, et vous le sentez bien, la pièce est une très grande qualité de style, de langage, une très grande qualité littéraire, et ce qui amène d'ailleurs à poser deux questions annexes qui ne sont pas résolues, l'une c'est celle de l'édition et l'autre de la traduction, parce que nous n'avons pas d'édition scientifique de Platonov, nous ne savons pas très bien finalement quel est le véritable texte. La version de Folio est celle que jouait Villard et qu'il a fait écourter pour la scène par Paul Corentin. Il faut rappeler que Paul Corentin, qui est mort il y a 3 ou 4 ans à 95 ans, a été un formidable adaptateur de théâtre, qui a adapté des pièces qui ont été très connues, des plus grands auteurs du milieu du XXe siècle, jusqu'à Peter Schaffer comme Écuisse, ou bien Amadeus, ou encore une pièce comme La Maison du Lac, et bien d'autres avant, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est cette prose que vous avez entendue. Il y a eu aussi une traduction de la professeure de russe qui s'appelle Bonamour, une version moins connue. Et il y a eu la version qui est jouée actuellement aux ateliers Mercier, c'est la version de Markovitch et Françoise Morvan, qui en général cherchent un style plus populaire, plus familier, plus coruscant et plus près du style du russe originel. Et donc il y a différentes manières certainement de rendre la pièce, différentes manières de l'éditer aussi, comme d'ailleurs après tout, ça a été le cas pendant longtemps pour Shakespeare certainement, et même pour Claudel, pour le soulier de satin par exemple. Platonov, c'est un peu comme le soulier de satin, et on peut en prendre, on peut tout donner ou ne pas tout donner. Mais il faut insister sur cette qualité de langage de ce garçon de 18 ans qui finalement apparaît comme une sorte de Rimbaud du théâtre, à la fois par cette révolution totale qui inverse toutes les valeurs. Pensons que ce qui triomphe à ce moment-là en France, c'est du Bafis, c'est Sardou, c'est des pièces extraordinairement bien construites, avec des personnages très typés, sans grande qualité de style, et qui s'exportent dans toute l'Europe, et y compris, bien entendu, en Russie. Et contre ce modèle, Tchekhov prend tout de suite position, de manière très discrète d'ailleurs, il n'a jamais écrit de préface manifeste. Donc c'est un texte très révolutionnaire qu'il écrit. Ce qui mène à un autre problème à poser, c'est le fait que Tchekhov a finalement été assez bien vu du régime soviétique. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, Roger ?
Pas tout le temps. Hein. Il a été bien vu du régime soviétique parce que dans ses pièces, ses personnages insatisfaits disaient « oui, il y aura des temps nouveaux », etc. Bon. En même temps, il a dit lui-même « il n'y aura jamais de révolution en Russie ». Erreur. Quand le régime est devenu plus dur, plus stalinien, etc., il y a eu, j'ai oublié le nom maintenant, vous m'excuserez, un critique qui disait « oui, Tchekhov, c'est bon pour les vieilles filles, c'est bien rangé dans les tiroirs avec les dentelles, les éventails. »
Des gens comme Gorky voyaient quand même en Tchekhov celui qui avait, d'une certaine façon, fait la critique la plus acide, la plus aride aussi de l'ancien régime. Il avait dit, je ne crois pas, je cite de mémoire, donc ce n'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'essentiel, il nous montre comment vivaient les gens et ils vivaient mal. En fait, c'est ça. Il voulait présenter ça comme justement une chose du passé, une critique des plus violentes.
C'est aussi, d'ailleurs, d'un point de vue marxiste, qui n'est pas le mien, je précise, une critique violente de l'esprit petit bourgeois. Oui. Ce qu'incarne justement ce que Marx a stigmatisé et ses disciples sous le nom de petit bourgeois, c'est tout à fait l'esprit des personnages de Tchekhov, qui ont un idéal noble, mais qui sont incapables de rien faire pour le réaliser. Nous allons peut-être écouter une scène de la pièce qui est la scène 10 de l'acte 3 dans notre version entre Sacha et Platonov.
Donc c'est une scène qui se passe juste après une scène très violente où Ossip, qui est un moujik des environs, qui a été payé par un des personnages pour agresser Platonov, vient de le frapper très violemment. Et Sacha, la femme de Platonov, est arrivée à ce moment-là par hasard et donc est en train de prendre soin de Platonov. Peux-tu te lever ? Essaie. Un démon. Tu es insupportable. Je t'avais prévenu de te garder de lui. Le divan. Allons, reste tranquille. Là, mets ta tête sur l'oreiller. Ainsi tu es venu, mon trésor. Notre petit Kolia est malade. Qu'est-ce qu'il a ? Une éruption. La scarlatine, peut-être. Il n'a pas dormi ces deux dernières nuits. Il ne veut rien prendre. Oh, Michel, j'ai tellement peur pour lui. Et ton frère, que fait-il ? Après tout, il est docteur. Il y a 4 jours, il est venu le voir, 1 minute. Alors ? Il a simplement bâillé et m'a dit que j'étais folle. Une canaille. Souviens-toi de ce que je te dis. Un de ces jours, il éclatera à force de bâiller. Oui, mais que faire en attendant? Dieu nous préservera. Pourquoi te ferait-il souffrir, toi? Uniquement parce que tu t'es embarrassé de ce bon à rien de Platonov? Sacha, prends bien soin du petit. Sauve-le, et je te le promets, j'en ferai un homme. Car c'est aussi un Platonov. Comme homme, je suis petit, mais comme père, je serai grand. Oui, nous serons tellement heureux tous les trois. Sacha, tu ris. Bien, voilà que tu pleures à présent. Je t'aime, ma petite chérie, je t'aime. Et tu me pardonnes, n'est-ce pas? Est-ce que cette aventure dure toujours? Aventure. Quel mot. Alors elle continue. Ma foi, ce n'est rien qu'une accumulation de malentendus. Et même si ce n'est pas réellement terminé, ce le sera demain. Quand? Oh, très bientôt. Il y a des choses dans son caractère que je ne pourrais pas supporter. Sophia ne sera jamais ta rivale. Qu'y a-t-il? Sacha! Ainsi, tu as eu une intrigue avec Sophia en même temps qu'avec la veuve. Tu ne le savais pas? Sophia! Oh, c'est affreux! C'était déjà très mal de t'intéresser à Anna Petrovna. Mais prendre la femme d'un autre, c'est un péché. Tu n'as pas de conscience. Tu lis trop de romans, Sacha. Je la quitterai. Reste ici. Non, je ne veux pas. C'est impossible. Oh mon Dieu. Je ne sais plus ce que je dois faire. C'est très simple. Reste. Sacha, je suis un débauché, je le sais. Mais tu me pardonnes, n'est-ce pas? Peux-tu te pardonner toi-même? Ceci, mon enfant, est une énigme philosophique. Je suis perdu. On ne peut pas reconstruire deux fois le même bonheur. Et nous étions heureux, n'est-ce pas? Tu nourris Osip, tu recueilles tous les chiens et les chats perdus du voisinage, et tu n'as pas pitié de ton époux? Tu ne comprends donc pas? Je ne peux plus vivre avec toi maintenant. Tu n'es plus digne de respect. Je sais, je suis un scélérat. Mais qui t'aimera jamais comme je t'aime? Qui te comprendra comme je te comprends? Qui d'autre t'enfermera dans ses bras comme je le fais? Et je suis le seul être humain qui pourra jamais manger ta cuisine. C'est vrai. Avoue que tu sales toujours atrocement la soupe. Laisse-moi m'en aller. Mon cœur est brisé et tu plaisantes. Eh bien, va. Va-t'en et que Dieu te protège. Pourquoi nous as-tu mis dans une telle impasse? Nous étions si heureux, Kolia et moi. Tu es encore là? Je te croyais parti.
Je veux ajouter sur cette scène.
Non, Roger.
Oui, je voulais revenir sur une chose que Jean-Yves Tallier a dit tout à l'heure à propos des différentes versions de traduction. Il y a un malheur, c'est que le français n'est pas une langue musicale. Le Tchekhov est beaucoup plus beau en anglais. Vous n'avez pas cet avis?
Je n'ai jamais écouté en anglais, on va dire.
Ah non, mais alors, même André Gide, lui, qui aimait beaucoup lire à haute voix, mais il disait Tchekhov en anglais.
Oui, en même temps, on a l'écho de ce cynisme de Platonov, qui dit à sa femme, la dernière réplique qu'il adresse à sa femme, mais évoque tout à fait le style de Molière. Par exemple, quand Molière dit à Sganarelle et qui écoute la femme de Don Juan, son frère, tu pleures, je pense, c'est tout à fait le même ton cynique et avec des phrases qui peuvent être très bien rendues en français, comme les années.
Et la biche aussi, il y a un aspect la biche,
oui,
je trouve.
Oui, parfois, oui. Oui, mais sauf que c'est même plus profond.
Ah oui,
que, sans vouloir critiquer la biche, bien sûr, qui est notre vache à lait, on ne va pas avec le dos, bien sûr. on paraît même les mettre au même niveau. Et là, il faut ajouter que le film de Mikhalkov qu'on évoquait, la partition inachevée pour piano mécanique, se termine justement sur un duo trompeur, entre dialogue trompeur entre Sacha et Platonov. Sacha est l'amour pur, c'est un personnage un peu niais mais très bouleversant. Elle n'est qu'amour et elle aime son mari en dépit de tout, en dépit de tout ce qu'elle lui fait subir. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Il y a une grande déclaration d'amour de Sacha, on va repartir, on va vivre de nouveau heureux, ce qui est au fond le contraire du véritable dénouement, et probablement pas exactement non plus la pensée de Tchekhov. Que pensez-vous?
Non, mais ça c'est des libertés des cinéastes. Hein, et d'ailleurs, il n'a pas...
Parce que la censure n'aurait pas accepté à l'époque que ça finisse par...
Il n'a pas appelé son film Platonov, il a appelé Partition inachevée pour piano mécanique, une distance quand même.
Il y a peut-être là, je change un peu de sujet, mais vous avez souligné ça quelque part, c'est l'idée de l'enfant battu. Alors sans faire de psychanalyse au premier degré, mais il semblerait que Tchekhov ait beaucoup souffert de son enfance, et il est assez intéressant que Platonov soit justement un maître, un instituteur, quoi. Maître d'école, et on lui demande s'il... Et il bat lui-même.
Il bat les enfants de Tchekhov pour leur inculquer d'enfants des bons principes. Mais c'est tout Tchekhov, puisque bon, Tchekhov qui a dit dans mon enfance, je n'ai pas une enfance, et qui est obsédé par cette idée qu'on bat les enfants, qu'il a été énormément battu lui-même, et partout où il allait, il disait qui bat les enfants ici, par exemple. Il arrive dans un village, il dit qui bat les enfants ici. Il voit quelqu'un, il dit est-ce qu'on vous a beaucoup battu dans votre enfance? Dans une des nouvelles, il y a quelqu'un qui arrive dans un village, il y a un chat, la personne veut appeler le chat ne répond pas. Alors la petite fille dit, il y a une petite fille qui est là qui dit, non, il n'entend pas, il est sourd. Ah, il est sourd, oui, on l'a battu. Ça revient tout le temps.
Est-ce que je me trompe ou il y a un projet de pièce perdue qui s'appelait Sans Père, dans sa jeunesse il aurait écrit le manuscrit d'une pièce appelée Sans Père, qui revient sur ce thème de l'enfance malheureuse. On voit d'ailleurs dans la pièce que Platonov, qui a un fils, ne s'en occupe pas du tout, ce petit garçon qui n'entre jamais dans sa pensée, dans son horizon.
Mais enfin, bon, le rapport avec le père était assez épouvantable avec ses enfants, le père de Tchekhov. Mais finalement il ne lui en veut pas. Hein. Et quand Tchekhov s'installe près à la campagne à Menikovo, c'est beaucoup pour pouvoir abriter le père. Et dès que le père meurt, il vend cette propriété. Ça s'en dit long quand même.
Donc on arrive à la fin de la pièce, et il y a une sorte de... Donc on a eu une section de numéros, mais cette structure n'est pas différente de celle des pièces de Molière, où on voit aussi, elles sont souvent construites, dont Jean notamment, comme une série de numéros, le personnage qui apparaît, disparaît, et d'autres interviennent dans la vie du héros, jamais les mêmes, quitte à revenir ensuite, c'est la structure de Platonov. Et donc, cette Sophia, qui a été, qui s'estime bafouée, ne le supporte pas, arrive avec un pistolet, et elle tue Platonov, qui a le temps cependant de dire ce mot qui m'a fait couper dans certaines mises en scène, je crois, ce mot que vous avez commenté tout à l'heure, Roger, pourquoi? Et Jean Villard a été absolument extraordinaire la façon dont il disait pourquoi, en relevant la main comme ça, à moitié couché, il était absolument bouleversant. Il incarnait évidemment un Platonov mûrissant, peut-être plus âgé que on le pense généralement. Quel âge donnez-vous à Platonov?
ans, pour moi, c'est un homme jeune. Villard, quand même, il était jeune aussi à cette époque-là, non ?
Oui, mais depuis quelque temps déjà.
Il avait une cinquantaine d'années, quand même. Oui, mais, il me semble.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Et je pense que ce qui lui a plu dans la pièce, je le disais tout à l'heure, c'est de refaire un Don Juan.
Oui. Un Don Juan creux, un Don Juan moqué, un Don Juan ridicule. Il faut dire, d'ailleurs, dans le théâtre russe, il y a une autre pièce avant celle-ci, sauf erreur, qui incarne aussi parfaitement l'ennui de la vie à la campagne, sans qu'elle mène cependant au meurtre comme ici. C'est Un mois à la campagne de Turgenev, qui est rejoué de temps en temps et qui est une très belle pièce, qui a pu servir peut-être aussi d'inspiration à Tchekhov. Parce qu'on n'est jamais de rien, surtout dans ses premières heures.
Oui, mais Tchekhov ne connaît pas facilement les influences, finalement.
Non, mais les universitaires sont là pour le corriger.
L'œuvre de Tolstoï pour des questions idéologiques lui dégoûte par moments. Donc, Oblomov, quand même, on se dit qu'il devrait aimer Oblomov, hein, de Wanchorov. Ah ben non, il trouve que c'est très ennuyeux.
Oui. Alors qu'évidemment, Oblomov est aussi on a envie de revoir un petit peu de Oblomov chez Tchekhov. Il faut ajouter que je trouve qu'au cinéma, on retrouve tout à fait l'univers de Tchekhov dans certains films de Bergman, qui, comme Sourire d'une d'été, l'autre qui procède un peu comme une